nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Pouvoir, mots et fondements à travers les civilisations. Avec quels mots les langues anciennes ou d'aujourd'hui désignent la notion de pouvoir? Comment nomme-t-elle celui qui occupe la fonction suprême du pouvoir? Quels titres l'accompagnent? Quels mots lui sont réservés? Y a-t-il une langue du pouvoir chez les rois, les pharaons, les empereurs, les tsars, les présidents? Avec nous aujourd'hui à Canal Académie, Nicolas Grimal et Jean-Noël Robert, tous les deux membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, tous les deux professeurs au Collège de France, nous apporteront leur regard croisé sur les mots du pouvoir dans la civilisation de l'Égypte ancienne et dans la civilisation japonaise, en tant que philologue, archéologue, historien de leur discipline, en tant qu'homme de terrain, c'est-à-dire grand connaisseur des grands textes anciens. Bonjour Nicolas Grimal. Vous occupez la chaire du Collège de France intitulée « Civilisation pharaonique, archéologie, philologie, histoire ». Vous avez été professeur d'égyptologie à Paris 4 Sorbonne, directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, au Caire. Vous êtes l'auteur chez Fayard d'une histoire de l'Égypte ancienne dont on ne compte plus les rééditions, je crois, ni les traductions. Parmi vos livres récents, « Le grand livre de Pierre », Images et conceptions du monde dans les écritures figuratives, qui étaient justement cinq façons de penser le monde, et de le mettre en image et de l'écrire. Et puis, on peut également citer événements, récits, histoire officielle, l'écriture de l'histoire dans les monarchies antiques. Jean-Noël Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous occupez la chaire du Collège de France intitulée « Philologie de la civilisation japonaise ». Vous êtes un spécialiste des textes bouddhiques, de l'histoire du bouddhisme japonais et de ses antécédents chinois, et aussi de l'école japonaise Tendai. Et vous êtes, comme je le disais, un grand philologue de ces textes sino-japonais. Vous êtes traducteur du Sutra du Lotus et l'auteur, en 2008, de la Centurie du Lotus qui présente... Je vous laisse la parole, monsieur Robert.
C'est un livre qui est dans le prolongement de la traduction du Sutra du Lotus, puisque je voulais montrer comment les Japonais interprétaient ce livre écrit en chinois, justement. Et l'un des éléments les plus constants dans l'histoire japonaise, c'est la poésie bouddhique faite sur le Sutra du Lotus, qui permet de voir comment on interprète des textes qui sont assez abscons, même en chinois, dans une langue japonaise classique, qui est la langue universelle de tous les lettrés, n'est-ce pas, la poésie. Voilà. Et l'adaptation poétique du Sutra du Lotus, que j'ai essayé de suivre presque jusqu'à l'époque moderne. Mais enfin, là ce n'est qu'une étape.
Alors, peut-être que pour commencer, je vais vous poser des questions très candides. Nicolas Grimal, le mot de pouvoir, existe-t-il dans la langue des pharaons?
C'est une question effectivement pertinente, puisque c'est le centre même de notre entretien. Mais c'est une question qui mérite de s'arrêter un tout petit peu, dans la mesure où il faut distinguer la nature du pouvoir et la pratique du pouvoir.
D'accord.
La civilisation pharaonique, comme toutes les civilisations, ne manque pas de termes pour désigner la pratique ou les effets du pouvoir, bien évidemment. Mais la nature même du pouvoir est quelque chose d'extrêmement complexe dans la mesure où elle dépend en fait de l'équilibre de l'univers et elle est dans un mouvement de va-et-vient incessant entre l'élément initiateur de la mise en ordre du cosmos et à l'autre bout de la chaîne, l'élément régulateur qui va permettre cette mise en ordre continuée. En d'autres termes, pour les anciens Égyptiens, le monde n'est pas créé une fois pour toutes, comme chez nous, mais il est remis en cause tous les matins avec le lever du soleil. Il faut donc qu'il y ait une force organisatrice qui soit en fait de même nature que celle du démiurge qui à l'origine a créé le monde. Et c'est cette création refaite, continuée, reprise tous les jours que le détenteur du pouvoir va avoir la charge d'assurer. Donc le terme même de pouvoir n'existe pas en soi. D'ailleurs, peut-être les hommes politiques pourraient-ils méditer là-dessus. On parle beaucoup de l'exercice du pouvoir, de sa pratique, de ses manifestations, mais de la nature même du pouvoir, quelque chose d'un peu complexe. Donc si on devait chercher un terme qui décrive le pouvoir en égyptien ancien, qui ne soit pas les effets du pouvoir ou ses manifestations, je pense que l'on pourrait se tourner vers une notion qui va peut-être surprendre vos auditeurs, qui est celle d'équilibre. Il existe un terme, la ma'at, qui est ce qu'on traduit extrêmement mal par la vérité, la justice, c'est-à-dire ce qui fait que le cosmos est organisé et fonctionne. Alors, c'est intéressant, si notre réflexion est sur la nature du pouvoir, de faire cette considération, parce que, comme vous le savez, la civilisation pharaonique a duré plus de 3 millénaires inchangée. De même, les conquérants qui sont arrivés en Égypte se sont coulés dans ce moule et n'ont pas bougé, que ce soit les Perses, que ce soit les Grecs, les Romains, jusqu'à ce qu'une religion révélée vienne changer tout ça. Bon, ça veut dire que le système avait une solidité qui lui permettait de traverser et les siècles et les crises. Et cette solidité, elle vient justement de là. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas la mainmise d'un individu sur un ensemble, sur une société, sur l'économie, ce qui n'empêche pas qu'à l'intérieur de cette société, il y ait tous les jeux de corruption, d'abus de pouvoir, tout ce que vous voudrez. Mais le fondement même du pouvoir fait que le plus petit dans la société trouve sa place qui est légitimée par le plus grand, qui lui-même n'est légitimé que par le plus petit. Donc si on devait parler de pouvoir, on devrait parler, ce serait une belle formule, d'équilibre et de justice. Alors, c'est un beau programme.
Ah, tout à fait.
Mais c'est un programme antique.
Jean-Noël Robert, est-ce qu'on a l'équivalent ou comment est-ce que cela se traduit dans la langue japonaise et dans la civilisation japonaise?
Écoutez, en tout cas, je découvre l'intérêt de votre idée qui est de confronter deux civilisations assez différentes parce que beaucoup de choses que Nicolas Grimal vient de dire pourraient être dites du Japon aussi. Mais il y a aussi beaucoup de choses, me semble-t-il, qui sont différentes. En particulier, cette séparation de pouvoir en quelque sorte symbolique, religieux et de pouvoir politique s'applique aussi au Japon. Et en même temps, l'ambiguïté du pouvoir japonais, c'est que aussi l'empereur, puisqu'il faudra parler de lui à un moment ou à un autre, va cumuler les deux, mais dans des perspectives très différentes. C'est-à-dire qu'on va lui prêter les deux et que dans la réalité, il n'en aura peut-être qu'une des deux facettes de ce pouvoir à assumer. Et là aussi, il y a... Alors évidemment, l'histoire du Japon est incomparablement plus brève que celle de l'Égypte, mais derrière, il y a idéologiquement, l'histoire de la Chine, où il y a aussi toute une réflexion sur le pouvoir, bien sûr, et le système impérial. Et nous avons ensuite le passage de la Chine au Japon, où les choses vont se réorganiser sur un autre modèle, je dirais. Alors, il va falloir parler du pouvoir dans tout ça. Nous avons, vous voyez tout de suite, il y a ce dialogue permanent entre Chine et Japon, qui est dans la culture japonaise. Vous avez un mot chinois qui correspondrait très bien, enfin plusieurs mots, mais et les deux mots mis ensemble qui maintenant veulent dire politique, mais les deux mots correspondent au pouvoir politique. Et ces deux mots vont être traduits en japonais, mais vont être lus en japonais avec des mots japonais originaux, si vous voulez. Et là déjà, il va y avoir un petit hiatus. Si bien que le pouvoir politique chinois, qui est un mot qu'on appelle chang en chinois, enfin, sera lu C en prononciation sino-japonaise, mais les japonais vont l'appeler Matsudigoto. Matsudigoto veut dire à peu près le pouvoir politique, la politique. Mais c'est très amusant, si vous êtes touriste au Japon, maintenant vous allez, l'un des grands moments du voyage touristique au Japon, ce sont les fêtes japonaises, qu'on appelle souvent les festivals maintenant, et ces fêtes s'appellent les Matsuri. Alors vous voyez, il y a peu de rapport entre le pouvoir et la fête en principe, mais c'est que c'est Matsudigoto, Matsudo à l'origine veut dire rendre un culte aux dieux. Si bien que ce qui était senti comme la prérogative du pouvoir impérial, c'était le culte rendu aux divinités.
Et aux fêtes?
Alors, les fêtes, c'est bien après, si vous voulez. Enfin, les fêtes, disons, les cérémonies, alors, oui. Donc, l'empereur du Japon était considéré à l'origine comme une sorte de grand prêtre. Tandis que le pouvoir politique était plutôt du côté d'un autre mot, que l'on retrouve maintenant dans le mot Seiji dont je vous ai parlé tout à l'heure, le second mot, donc, qui est Osamu. Et Osamu veut dire contenir, ranger, en quelque sorte.
Réunir ou,
contenir. C'est vraiment mettre en ordre. On peut même dire ranger dans une armoire, ça sera le même mot, n'est-ce pas? C'est donc tout bien contenir. Alors, vous avez les deux facettes du pouvoir qui sont exprimées par ces deux mots. Et l'empereur aura plutôt la première fonction, celle de rendre un culte. Et le Osamu, la fonction de régenter, en quelque sorte, sera confiée à d'autres, on dit agencies maintenant en anglais, mais à d'autres agents d'application. Et ça va être un peu une partie de l'histoire japonaise.
On a cette notion aussi d'équilibre que Nicolas Grimal évoquait, alors, où elle apparaît autrement dans les attributs.
L'équilibre, alors je pensais à ça en écoutant Nicolas, justement, Nicolas Grimal. Vous avez un mot qui est, là aussi on voit ce va-et-vient entre les différentes dimensions de la pensée japonaise religieuse et politique, c'est que le mot qui correspondrait au mot de l'équilibre, au sens d'équilibre, c'est le mot bouddhique, n'est-ce pas, qu'on traduit par dharma. Or, les Japonais, pour traduire ce mot bouddhique, dharma, ont pris un vieux mot qui s'appelle nori, et nori veut dire l'ordre impérial, n'est-ce pas? Alors vous voyez, là il y a un mouvement de retour, en quelque sorte, entre le vocabulaire indigène et l'adaptation à quelque chose d'extérieur, et on a retrouvé un peu naturellement. Donc, nori veut dire l'ordre divin d'abord, c'est-à-dire l'ordre donné, n'est-ce pas? Yusum. Ensuite, l'ordre donné par le représentant du divin, qui est l'empereur, à quelqu'un de plus bas. Et puis, on a repris ça pour reprendre l'ordre cosmique, en quelque sorte, qui est le dharma bouddhique. Donc, il y a un va-et-vient constant entre ces dimensions qui rappellent. Mais pour une vérité, en tant que telle, il y aura un autre mot qui n'interviendra pas, me semble-t-il, dans l'idéologie politique à ce niveau. Parce qu'il a été repris, le mot correspondant à vérité, après, a été repris dans le sens de sincérité, et c'est la loyauté à l'égard du souverain. Alors, voyez, les applications deviennent très... du souverain ou du suzerain.
Nicolas Grimal, on a tous en tête l'internaute lambda, le pharaon. Comment, justement, dans la langue des Égyptiens de l'Égypte antique, est-ce qu'on lui donnait plusieurs titres? Est-ce qu'il y avait plusieurs mots? Comment est-ce qu'on désignait celui qui occupait cette fonction?
Oui, alors d'abord, non pas pour en terminer, mais pour
rebondir,
rajouter une touche sur le thème de la théocratie.
Oui.
Le mot n'a pas été prononcé, mais c'est ce dont nous parlons. Il y a tout le côté du maintien de l'équilibre de l'univers qui est inhérent à la fonction même de théocratie, qui assure d'ailleurs la pérennité du système politique, puisque si vous détruisez ce système, vous n'avez plus d'avenir dans l'immortalité. Comme disait Ourmaï lorsqu'il était perdu, qu'il avait été chassé d'Égypte, il était dans le désert, il dit « mais qui se soucierait d'une charogne au coin d'un désert ?» Bon, c'est vrai, si vous n'êtes plus dedans, vous n'existez plus, donc il y a ça. Et ça, c'est le rôle du théocrate, d'où cette espèce de miroir entre l'univers, la célébration et la politique. Alors au Japon, on a choisi de séparer en quelque sorte l'un de l'autre, puisqu'il y a une continuité, si je te comprends bien, il y a une continuité qui est éternelle, qui est celle que maintient l'empereur, parce que il est là, parce qu'il est le système à lui seul, et puis il y a la réalité de la politique, qui est pas si facile, et avec laquelle il vaut mieux que les subalternes traitent un peu, parce que
ouais,
c'est quand même moins engageant. Bon. Alors, en Égypte, le pharaon, d'abord le terme par lequel nous le désignons, est un terme qui ne l'a désigné que de façon très adventiste et par métonymie. Pharaon, en égyptien, c'est père. Ah, ah, ça veut dire la grande maison. On ne peut pas appeler quelqu'un, va donc à une grande maison.
Bon.
Donc, le pharaon a été désigné par métonymie en fonction de, à partir de son administration. Et ça, ça apparaît relativement tard. Ça apparaît dans la deuxième moitié du deuxième millénaire avant notre ère. Donc, situation pharaonique est déjà plus que millénaire au moment où cela se passe. Le pharaon lui-même, on ne l'appelle pas. On l'appelle sa majesté. Hemef. Et le mot Hem est un mot très intéressant parce que c'est le même mot qui possède une polysémie très vaste puisque ça désigne aussi bien le serviteur que le roi. Le roi lui-même, il est Hemnetcher, il est serviteur du dieu. Et les serviteurs du roi sont ses Hemu. Et lui-même, il est Hemef. Donc vous voyez, il y a là tout un jeu qui fait qu'on existe par la fonction que l'on remplit. C'est, je pense, ce par quoi on pourrait caractériser le titre. Sinon, le pharaon lui-même, il a toute une série de noms, mais qui sont des noms qui sont propres à sa titulature et qui vont définir certains aspects de sa fonction. Il est fils de Ré. Bon, il est fils de Ré parce qu'il est l'héritier, évidemment, des Murges. Il est roi de Haute et de Basse-Égypte parce qu'il a unifié les deux royaumes primitifs. Mais il est aussi un Horus d'or parce qu'il est la symbolique d'Horus. Et ainsi de suite. Alors, cette idée-là, elle est intéressante parce que le roi, en fait, dans son devenir humain, résume l'ensemble du devenir céleste de la royauté divine. Je m'explique. Le roi, il est Horus. Horus, tout le monde connaît la légende d'Isis et d'Osiris. C'est le fils posthume d'Osiris, qui est élevé de façon clandestine dans les marais de Khémis par sa mère Isis et sa sœur Nephthys, et qui va revendiquer le trône. Il va le revendiquer et le prendre de force à son méchant oncle. Mais le méchant oncle perdra, mais restera quelque part dans le système, comme canalisant les forces mauvaises, etc. Puis il sera roi. Puis il mourra, il deviendra à son tour l'Osiris mort, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a ce cycle continu qui fait que la royauté est en fait une étape terrestre de la royauté divine éternelle. Et elle entraîne dans tout ce mouvement l'ensemble de la population et l'ensemble de la civilisation. Donc il n'y a pas de délégation au sens théologique du terme, dans la mesure où le roi est le moteur de tout. Dans les faits, il y a bien sûr une délégation, la maison royale comprend un certain nombre de conseillers et de fonctionnaires qui s'occupent qui de l'économie, c'est le chef du trésor. Alors, dans des enjeux symboliques comme l'armée, c'est plus difficile. C'est plutôt le fils aîné, l'héritier désigné, qui va être chef des troupes. Mais ça varie selon les époques, etc., dans la mesure où il est bon que le roi fasse ses preuves avant de devenir roi. Et là, on touche aux manifestations du pouvoir. C'est-à-dire que peut-être, au contraire de l'empereur du Japon, qui lui est en fait une sorte de pur esprit, qui n'a pas à se battre, qui n'a pas entré dans des considérations terre à terre, Pharaon, vous le voyez partout représenté, armé d'une massue, en train de fracasser des crânes, de pourfendre des ennemis, de se livrer à toutes sortes d'exercices violents, etc. Donc il y a ce côté, peut-être plus lié au monde africain et sémitique, de la manifestation extérieure de la force, et c'est le machisme méditerranéen ou africain qui fait qu'on ne peut régner que si on est le plus costaud.
Jean-Noël Robert, on a l'équivalent. Alors là, on n'aurait pas l'équivalent, d'après ce que vient de nous dire Monsieur Grimal, l'empereur serait plus immatériel.
Ce que dit Nicolas est très juste. C'est vrai que même si l'on prend ce qu'on appelle toujours l'âge d'or de la civilisation japonaise, qui est l'époque de Heian, donc du 9e à la fin, disons, de 800 à 1200 à peu près, eh bien, c'est vrai que l'empereur, c'est peut-être le sommet du pouvoir impérial que nous connaissons, mais l'empereur gouverne très peu parce qu'il y a des familles et des clans autour de lui qui sont l'un des plus célèbres, ce qu'on appelle le système des Seishō Kampaku, n'est-ce pas, les grands conseillers, chambellans. Et il y a une grande famille comme celle des Fujiwara, qui est très connue, qui fournit des filles au clan impérial, c'est-à-dire que des filles, enfin, à marier, n'est-ce pas, des épouses impériales. Et donc, ce sont eux, en réalité, qui maintiennent pendant à peu près toute la période de Heian le pouvoir politique. L'empereur n'a pas de fonction guerrière. Non seulement il n'a pas de fonction guerrière, mais la fonction guerrière est très mal vue lors, à l'époque de Heian. Le Japon des samouraïs n'est pas encore là, n'est-ce pas? Il y a des combats pourtant dans certaines parties du Japon, dans le nord, mais l'empereur ne va pas à la tête de ses troupes, même symboliquement, se battre.
Comment est-il désigné alors?
Encore une fois, le vocabulaire est très riche et toujours la même chose, n'est-ce pas? Vous avez toujours cette dualité sino-japonaise qui se fait jour de plus en plus. Le nom de l'empereur que l'on a tous en tête, n'est-ce pas, c'est donc le Tenno, qui est une titulature complètement chinoise, littéralement l'empereur céleste, le souverain du ciel, parfois même le fils du ciel, on peut dire aussi, comme en Chine. Et donc ça, c'est quelque chose qui vient de Chine. Et comme vous le savez, il y a cette fameuse lettre d'un empereur du Japon envoyée, enfin, elle n'est pas répertoriée dans les annales chinoises, mais il l'avait envoyée donc, au 7e siècle en Chine en disant « L'empereur du pays où le soleil se lève salue l'empereur du pays où le soleil se couche ». Ce qu'il voulait montrer, enfin, c'était un peu présomptueux quand même, mais il paraît que d'après les annales japonaises, cette lettre a été très mal prise en Chine. Mais là, ils avaient pris la titulature chinoise. Et puis, vous aviez les titulatures japonaises, alors, qui sont très vastes aussi et très vagues. Il y en a une qui est à partir du souverain, Kimi, n'est-ce pas ? Ogimi, le grand souverain. Et puis, vous avez une titulature qui ressemble plus, parce que il faut savoir que, évidemment, la maison impériale est censée être descendre de la divinité solaire, la déesse Amaterasu, n'est-ce pas ? Et alors, vous avez des mots comme, par exemple, Suberano Mikoto, qui est vraiment une titulature divine. Et c'est littéralement le grand être divin, qui Subera. Alors, ce mot avait beaucoup excité les philologues au 19e siècle, parce que ça peut être Subera ou Sumera, n'est-ce pas ? C'est Sumer, donc les Japonais venaient de Sumer. En réalité, ce mot vient d'un vieux terme qui est très proche de Osamu, dont je vous disais tout à l'heure, celui qui contiendrait tout, qui engloberait tout. Alors, il y aurait une allusion à une fonction peut-être plus politique autrefois, mais c'est un fossile, n'est-ce pas ? Et en général, alors ce qu'a dit Nicolas me rappelait aussi quelque chose, c'est que la grande maison, il y a un mot sino-japonais qui se prononce « dairi », le grand intérieur, qui est le nom du palais impérial à l'époque, et qui veut dire à la fois l'empereur et la cour
là
impériale.
Là aussi, alors, le lieu et la personne
et la fonction, et tout entier est compris dedans. Et dans la littérature classique japonaise, vous avez pas mal de termes pour désigner tout ce qui est du palais, qui est la crème de la terre. Et en particulier, il y a un mot assez intéressant qui est kumonoe no shitobito, n'est-ce pas, ceux qui sont au-dessus des nuages, ce qui les fait remonter un peu à leur nature, enfin, non pas divine, mais d'ascendance divine. Ce sont les gens qui sont vraiment très au-dessus du monde.
Alors, dans ces gens qui sont particulièrement célestes, d'origine divine, au-dessus du monde, grand ordonnateur, dans les mots qui les désignent, est-ce qu'il y a des mots sacrés ou qui sont compris comme des mots un peu sacrés? Est-ce que la façon de les désigner, est-ce que ce serait dans les mots utilisés, seraient des mots qui leur seraient réservés, bien sûr, mais est-ce que cette partie de la langue revêt un caractère sacré ou pas?
Ah oui, à la fois.
Dû à leur fonction et à leur origine.
Un lexique qui leur serait réservé, oui. Et en même temps qui aurait un aspect sacré.
Nicolas Grimal, comment étaient désignés les conseillers du roi, du pharaon, qui eux-mêmes étaient donc détenteurs de pouvoir?
En Égypte ancienne, le pharaon, à toutes les époques, règne en fait à travers un groupe qui est autour de lui, qui est un groupe de conseillers. Alors, le nom que l'on donne aux membres de ce groupe est intéressant parce que il est antinomique avec la nature même du groupe. Chacun est appelé semerwati, c'est-à-dire ami unique, ce qui marche pas puisqu'ils sont pas que un. Donc, il y a plusieurs amis uniques, mais on fait partie du groupe des amis uniques. Ces amis uniques sont des gens qui sont extrêmement proches. Là aussi, par un jeu de parentèle subtil, il y a toute une diplomatie d'association des notables de province au roi par mariage, par rapprochement, etc. Vous en avez une excellente image quand vous regardez les nécropoles royales de l'ancien empire. Si vous allez à Gizeh, par exemple, vous verrez autour des pyramides, ou à Abu Rawash, c'est la même chose, vous avez autour la nécropole des nobles qui accompagnent le roi dans l'au-delà, comme ils l'ont accompagné ici-bas. Et ces nécropoles sont organisées. Au premier rang, il y a les Semerwati, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, éternellement, ils accompagnent dans la même ordonnance et dans la même organisation qui était celle de leur vivant. Et tout cela est évidemment gradué. Donc, il est évident que plus l'on se rapproche du lieu du pouvoir, moins on est touchable par l'ensemble de la population. Ceci dit, sans entrer dans des questions de vocabulaire, qui seraient peut-être un peu techniques, l'histoire a montré que la position de la postérité par rapport aux gens qui ont détenu le pouvoir est quelque chose qui n'a rien à voir avec le respect qu'ils avaient de ce pouvoir. Je m'explique. L'Égypte a connu des révolutions de la faim, des révolutions politiques, des révolutions sanglantes, qui, sous d'autres cieux, en d'autres temps, auraient donné des systèmes marxistes, auraient donné d'autres systèmes politiques. Pas du tout.
Là, ça a perduré.
L'Égypte, on a renversé le système, et puis on a remis les mêmes et on est reparti. Un peu comme maintenant, hélas. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Entre-temps, au moment de la colère, au moment de la furie, on a détruit. On a détruit les tombes de ces nobles, justement, qui étaient perçus comme des nobles. C'est ceux dont vous allez visiter les tombeaux. Et lorsque, après la première de ces révolutions, qui a marqué le tournant entre l'Ancien Empire et le Moyen Empire, donc au tournant du 3e et du 2e millénaire avant notre ère, lorsque l'on a rétabli le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les souverains, les rois de la 12e dynastie, les premiers pharaons, ont inclus dans les matériaux de construction de leurs pyramides les éléments qui avaient été détruits et arrachés aux anciens tombeaux. Et donc, ils ont fait une sorte devoir de mémoire, si vous voulez, qui a rassemblé les éléments qui avaient été détruits de façon à leur redonner la cohérence qui était la seule façon de les sanctifier, en quelque sorte, et de les rendre à nouveau durables. De même, lorsque Akhnaton a mené sa révolution, qui n'en était pas une, il a simplement changé le dieu numéro un. Qu'est-ce qui s'est passé après ? On a détruit son souvenir de façon qu'il n'existe plus. C'est-à-dire que on l'a désacralisé. C'est très simple, hein, désacralisé, mais on savait très bien faire ça sous Staline aussi. Hein. On rayait le nom, puis aujourd'hui avec Photoshop, on fait disparaître la figure, etc. C'est exactement le même principe. Ce qui veut dire qu'il y a le sentiment que les gens qui participent du pouvoir de près, en fait, reçoivent une sacralisation, un peu comme si la théocratie déteignait sur eux. Alors qu'ils ne sont à aucun moment, ils ne font pas partie d'une caste. Il n'y a pas de caste en Égypte. Contrairement à l'Extrême-Orient, où l'on a quand même une certaine relation au divin. Là, absolument pas. Ce ne sont que des serviteurs, mais qui, par ancienneté, créent leur propre dynastie, si vous voulez, mais s'ils resteront toujours des civils par rapport au pouvoir divin. Donc, il n'y a pas cette contamination que vous recherchez de sacralisation par la fonction. Il y a bien entendu des mots réservés qui décrivent les fonctions dans lesquelles sont les, par exemple, le tchati, que nous traduisons par un terme qui vient de la sublime porte, vizir. Il est évident que les anciens Égyptiens ne connaissaient rien des vizirs ottomans. Hein. Le tchati est un très haut personnage, puisqu'il est le numéro 2 ou 3 du pays, mais il n'y a pas d'hérédité. C'est une charge qui est donnée par le roi, qui est reprise par le roi.
Donc, du côté du Japon, de l'histoire japonaise et de la langue japonaise, Jean-Noël Robert, est-ce que...
S'il y avait un vocabulaire sacré réservé
oui,
à l'empereur. Vous touchez à une vieille frustration. Autrefois, j'avais fait un peu de siamois, du thaï donc, et je trouvais merveilleux le fait que vous aviez un vocabulaire du tout venant. Et puis, vous aviez le vocabulaire de la maison royale. C'est-à-dire que tout ce qui touchait le roi, et la maison royale, les fonctions, mais tout, n'est-ce pas, depuis le fait de manger, de boire, de dormir, était l'objet d'un vocabulaire spécial. En général, c'est un vocabulaire extrêmement sanskritisé. Et je me souviens que lorsque le roi de Thaïlande était venu en France, le personnel de l'ambassade de Thaïlande révisait fiévreusement son vocabulaire parce qu'il ne fallait surtout pas se tromper. Malheureusement, je dirais, en japonais, vous savez que le japonais est une langue où les honorifiques sont extrêmement présents. Alors, lorsque ça concerne l'empereur, vous utilisez des honorifiques, en effet, ronflants, spéciaux, etc. Mais vous n'avez pas un vocabulaire à part, différent. C'est-à-dire, vous avez le vocabulaire de la cour. Le vocabulaire de la cour est à part. C'est comme par cette anecdote célèbre où une princesse ne connaissait pas le mot pour désigner une cuillère à riz, n'est-ce pas? Enfin, c'était
Et que s'est-il passé, alors?
Elle a employé un petit mot, un mot enfantin, un mot qu'elle avait de son enfance qui a fait rire tout le monde, n'est-ce pas? C'est une anecdote qui est restée célèbre dans l'histoire parce qu'elle a été reprise par un romancier du XVIIe siècle. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'empereur avait une prérogative pronominal. Et ça vient de Chine, encore une fois. Le premier empereur de Chine, vous savez, ce fameux premier empereur Qin Shi Huangdi en 221 ou 24 avant Jésus-Christ, a unifié la Chine sous sa coupe. Et il s'était pris un pronom personnel dans la gamme en disant « ce pronom ne sera utilisé que par l'empereur ». Et l'empereur du Japon a repris ce pronom, qui a été utilisé jusqu'à la fin de la guerre de 39-45. Je crois que c'était la dernière fois qu'il a été utilisé. Maintenant, l'empereur emploie le système, enfin, vous savez, le système pronominal japonais est un peu différent d'une autre, mais disons qu'il parle un peu comme tout le monde. Mais ce pronom a disparu. Ce pronom était vraiment prérogative impériale. En dehors de cela, vous...
Donc pas de caractère sacré, mais au moins une réserve.
Oui, c'était... Quand même mais une évidemment, le... et alors, vous employiez à l'égard de l'empereur des honorifiques que l'on pouvait employer à l'égard de Bouddha ou de personnes, mais vous les employiez aussi à l'égard de tous les gens à qui vous vouliez rendre hommage. Disons qu'il y a un décalage de vocabulaire, mais pas un vocabulaire radicalement différent.
Est-ce qu'il y a une frontière dans les langues anciennes, là, que vous pratiquez tous les deux, qui traduisent l'impossibilité, j'allais dire, d'accès, mais ça ne correspond pas du tout avec la description que vous nous avez faite, justement, de cette notion de pouvoir.
Oui, parce qu'il est plutôt
dans l'équilibre.
Il y a aussi un code honorifique, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas au pharaon, en principe, parce que d'abord, il y a un principe qui est très fort, c'est que le pharaon étant le dispensateur de l'éclat et de la lumière du créateur, vous pouvez pas le regarder en face, parce que ça vous fout droit, on peut pas regarder Dieu. Bon. Donc il y a déjà ça, ce qui fait qu'on s'adresse au roi par périphrase. D'abord, on lui parle à la troisième personne du singulier, bien évidemment, c'est sa majesté. Donc il n'est pas question de s'adresser à lui directement. Et dans les emplois honorifiques que l'on peut avoir, lui, on peut le comparer à des dieux. On peut, en particulier, lui dire qu'il donne la vie. Ce qu'on ne pourra pas dire à quelqu'un d'autre que le pharaon. Bien évidemment, on se voit pas. Il y a un conte célèbre qui est celui que l'on a appelé le fella éloquent ou le paysan plaideur. C'est l'histoire d'un paysan qui vient du Fayoum, il est avec ses ânes, et il apporte ses biens pour vendre au marché sa petite production. Et en chemin, il y a un intendant cupide qui possède les terres qui jouxtent le chemin. Vous savez, en Égypte, vous avez toujours le canal, le chemin et le champ. Donc le paysan doit passer par le chemin. Et l'intendant cupide met une grande pièce de tissu sur le chemin pour que l'autre passe pas dessus. Le paysan arrive, il le voit pas, il passe, ses ânes marchent dessus. Bien évidemment, l'intendant le saisit, lui, ses biens, les marchandises, et commence, il l'enferme, il le bastonne, et puis il dit « tu as souillé ma pièce de tissu », et commence toute une série de plaidoyers. Le pauvre paysan, il est au fond de sa prison, et il envoie des suppliques qui sont des morceaux d'éloquence, mais extraordinaires. Alors, l'intendant, voyant ça, donne à son maître, qui se régale, et qui donc qui fait durer le plaisir. Le malheureux fait 10 suppliques comme ça, qui sont toutes plus rhétoriques, plus magnifiques les unes que les autres, vous l'avez deviné. C'est un même magnifique exercice de style. Et dans sa façon de s'adresser à l'intendant, il est face à un dilemme extraordinaire. C'est que il veut évidemment obtenir de lui sa grâce. Mais la grâce, on ne peut l'obtenir que du pharaon, on ne peut pas l'obtenir de l'intendant, qui est une sorte de sous-fifre. Bon. Donc il va falloir qu'il trouve des termes qui ménage la chèvre et le chou, si je puis dire. Et alors, il s'engage dans une série de métaphores qui sont de l'équilibrisme total, comparant l'intendant à la voile du navire qui ne faseillera pas dans le vent de la certitude, et ainsi de suite. Vous avez des morceaux de bravoure qui sont absolument délectables, et tous que l'on peut lire à double sens en les transférant vers le pouvoir divin. Donc, ça veut dire qu'il y a réellement un code. On ne transgresse pas le code que l'on utilise pour s'adresser au roi, mais on peut le pasticher. Et on en a des exemples par la littérature figurée, malheureusement pas par la littérature écrite. Vous savez qu'il existe en Égypte des fables qui sont dessinées sur des tessons, sur des morceaux de pierre, etc., qui rappellent beaucoup les fables d'Ésope. Et l'on voit dans ces fables, on devine, on sent qu'il y a des situations dans lesquelles des animaux se trouvent dans les situations des humains, et il arrive qu'il y ait un animal qui soit dans celle du roi, le lion par exemple. Mais il a affaire à toutes sortes de vermines mal intentionnées, des renards, des chats, enfin, qui essaient à chaque fois de lui carotter quelque chose, de lui prendre quelque chose. Et donc il y a une transposition graphique du style noble, si je puis dire, avec la charge humoristique. Alors vous voyez, on est dans des zones difficiles à percevoir, mais on voit bien qu'il y avait tout un codage. Et que ce codage, on peut le brocarder, mais on ne peut pas le transgresser, en fait.
Marquons une courte pause et retrouvons-nous dans quelques instants.
Thank you.
Nous venons de voir, Nicolas Grimal et Jean-Noël Robert, qu'il y a des codes, des honorifiques, des titres qui sont liés à celui qui exerce le pouvoir suprême dont nous avons parlé, le pharaon, dans le cas de l'Égypte ancienne, et l'empereur, dans le cas de la civilisation japonaise. Est-ce qu'il y a une langue du pouvoir, Nicolas Grimal?
Dans le cas que je viens d'évoquer, elle n'est pas la langue du pouvoir, puisqu'elle est la langue par laquelle on s'adresse au pouvoir. Alors, il y a maintenant toute une phraséologie du pouvoir. Alors là, Dieu sait que les Égyptiens sont orfèvres en la matière. La phraséologie du pouvoir s'exprime dans des termes d'autant plus choisis que généralement ils sortent de la bouche du roi. Donc il est évident que le roi va procéder par assimilation à des situations divines, exactement comme la magie a des fins curatives. Par exemple, si vous avez, on a des textes poignants dans les formules magiques où une mère a son fils qui se fait piquer par un scorpion et comme est-ce que vous voulez faire, elle utilise une formule qui dit au venin, venin, tu t'es trompé, ce n'est pas mon fils que tu as piqué, mais Horus, parce qu'Horus, une fois, s'est sorti de ce genre d'affaires. Donc, vous voyez, donc il y a cela, cette assimilation qui est affirmée par le roi. Donc le roi, en fait, met toujours en scène le monde entier à chaque fois qu'il intervient. C'est-à-dire que pour construire un édifice, par exemple, vous avez, dans ce qu'on appelle le récit royal, toute une mise en scène du roi qui est dans son palais, qui réfléchit, qu'est-ce que je pourrais faire d'utile, etc. Puis tout d'un coup, il va entreprendre une action qui, en fait, est la reproduction d'un fait prototypal qui a été fait par le démiurge à un moment ou à un autre. Donc là, vous avez une véritable langue de bois politique, dirait-on. Alors, qui pour l'historien est souvent difficile à percevoir, puisque, vous savez, c'est le célèbre exemple de la bataille de Kadesh. Si vous prenez la bataille de Kadesh racontée par Ramsès II, les Égyptiens ont gagné. Si vous la prenez racontée par Hattusili III, c'est les Hittites qui ont gagné. Mais parce que chacun, dans son genre, est pris par un codage qui fait que son action doit être conforme à l'équilibre de l'univers. Alors vous pouvez perdre, mais il y a la manière de perdre, parce que sinon c'est l'univers qui est détruit. Alors quand on gratte un peu, quand on travaille sur cette rhétorique, on arrive à décrypter. Il y a des niveaux dans l'affirmation moins forts. C'est comme ça que le souverain Bianchi, pillé quand il conquiert l'Égypte au milieu du deuxième millénaire, presque au milieu du premier millénaire avant notre ère, il connaît des échecs dans sa campagne. En particulier, il n'arrive pas à mettre la main sur Tefnacht, qui est son principal ennemi. Alors tout cela est présenté d'une façon, il ne dit pas qu'il a gagné, mais il ne dit pas qu'il a perdu non plus. Et en fait, tout fonctionne. Alors ce codage-là, il existe, oui, même si nous avons du mal, parce que parfois le référent nous manque. Nous avons du mal à comprendre exactement ce qu'il y a derrière, mais on le sent parce qu'il y a un niveau de langage. C'est-à-dire que vous avez un style épique qui apparaît, qui doit être la même chose, je pense, au Japon. Immédiatement, le ton monte. On est à un autre niveau et le tout se dit dans une langue, et ça c'est peut-être ce qui est le plus proche de votre question, qui ne varie pas pendant trois millénaires. C'est-à-dire que on parle à la cour et on écrit dans la langue ce qu'on appelle l'égyptien de tradition. C'est-à-dire que si on imaginait tout d'un coup qu'un Égyptien de l'Ancien Empire se retrouve dans un temple ptolémaïque, mis à part le fait que l'écriture est devenue un peu plus complexe, si on lui lit, il va comprendre ce qui est écrit. Parce que c'est la même, alors que la langue du pays a évolué. Il y a des rattrapages, il y a différents niveaux pour l'administration, mais la langue de cour, si vous voulez, reste une langue classique. Comme si nous continuions à parler latin au Collège de France. Pourquoi pas?
Faudrait y penser.
On y pense.
Jean-Noël Robert, est-ce qu'il y a des registres comme ça dans la langue japonaise?
C'est un peu délicat. Je pensais justement, lorsque Nicolas parlait du style épique, il y a deux grandes œuvres littéraires japonaises, ce sont les deux plus grandes œuvres littéraires, elles sont extrêmement contrastées, c'est très drôle. Vous avez d'abord le fameux roman de Genji, n'est-ce pas, le dit oui. De Genji, des alentours de l'an 1000. Puis vous avez ces fameux dit des Heike, n'est-ce pas, les Heike Monogatari, qui est beaucoup plus tardif, qui, disons qu'il était constitué autour du XIIIe siècle. Et là, c'est l'histoire de la bataille de deux clans, n'est-ce pas, pour le pouvoir, non pas impérial, mais le pouvoir réel. Tout est différent dans ces deux livres, qui sont séparés par deux siècles à peu près, enfin peut-être un peu plus, mais la langue du Genji était encore cultivée deux siècles plus tard. Ce n'est pas seulement dû à l'évolution de la langue, là, ce sont deux registres, et le registre de la vie de cour, à l'intérieur de la cour, celle du Genji, qui est une langue extrêmement raffinée, avec très peu de mots chinois, et une langue d'une ambiguïté absolument rare, n'est-ce pas? Il est très difficile de comprendre déjà. Peut-être pas les gens de cour de l'époque, mais quelques générations après, déjà, on avait beaucoup de mal à les lire. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de commentaires. Alors que le Heike Monogatari, qui est un peu plus tardif, certes, mais quand même très loin de la langue actuelle, eh bien, les gens, jusqu'à il y a quelques, en tout cas, disons, il y a une génération, les gens de bonne culture pouvaient lire ce texte, et qui était vraiment une langue épique. Une langue épique est justement dépourvue d'ambiguïté, et avec un très fort vocabulaire chinois en même temps. C'était donc une langue qui était, on pourrait presque contraster, langue de guerrier d'un côté, langue de cour de l'autre. Et ce flou, cette ambiguïté de la langue de cour, je pense, devait refléter aussi quelque chose de la situation à la cour même, n'est-ce pas, où tout était les intrigues, il y avait beaucoup d'intrigues, elles étaient très feutrées, et en même temps, il y avait une, à la fois, bien sûr, un désir d'arriver dans le monde de la cour, et puis le désir de ne pas le montrer. On peut vraiment parler d'une sorte de langue, de deux langues de pouvoir, en quelque sorte, mais des deux manifestations du pouvoir. Le pouvoir symbolique d'un côté et le pouvoir guerrier de l'autre. Et qui est toute l'histoire du Japon, puisque vous savez qu'après l'époque de Heian, donc à l'époque du Heike Monogatari, commence la période des shoguns, où cette fois le simple semblant de pouvoir symbolique que gardaient les empereurs, on peut même dire qu'il est confisqué au profit de ces généraux, de ces clans guerriers. Et c'est là que commence l'épopée des samouraïs, en quelque sorte, pour reprendre le mot normal, le mot communément maintenant propagé dans le monde. Le statut impérial va être de plus en plus éthéré. Et ces registres du pouvoir politique d'un côté, du pouvoir guerrier de l'autre, politique et guerrier d'un côté, d'accord, et du pouvoir symbolique de l'autre, vont être très séparés, n'est-ce pas ? Et pratiquement, ne vont se retrouver qu'à la restauration de Meiji, où la langue du pouvoir symbolique retrouvera la langue du pouvoir politique.
Vous pouvez nous donner un exemple de cette langue du pouvoir symbolique ? Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est-à-dire, disons, la dissimulation de l'agent, en quelque sorte. Quand vous lisez le Genji Monokan, pour vous donner un exemple oui. très concret, vous ne savez jamais de qui il est question. On doit se dire, tiens, là c'est en ce moment telle suivante qui parle, là c'est la princesse, là c'est le héros du roman qui est le prince Genji lui-même. Mais comme ces gens évoluent au cours des âges, au long des chapitres, la façon dont on les appellera va changer. On va parler du conseiller, du premier conseiller, du second conseiller, etc. Mais c'est le même personnage, seulement comme leurs fonctions ont changé, les mêmes mots vont désigner des personnages différents. Si vous disiez le caporal, par exemple, eh bien le caporal est devenu colonel, donc quand vous l'appellerez le colonel, c'était le caporal du chapitre précédent, donc voyez. Et alors ça a été un casse-tête pour les Japonais eux-mêmes, et maintenant d'ailleurs...
Ils n'avaient pas de nom ?
Ils avaient des noms, mais bien sûr, on ne les utilisait pas.
On disait que les titres.
On ne les utilisait pas. Donc il fallait...
Leur fonction, c'est vrai,
il y a une sorte de disparition de... Alors que c'est un roman extrêmement psychologique, vous avez une disparition de l'individu. Ça me fait penser à un exemple aussi assez parlant. On pourrait peut-être en reparler dans les compétitions, mais vous savez qu'il y avait, à l'époque de Heian, il y avait des tournois poétiques. On faisait des concours de poésie. Et vous aviez des classements faits sur certains critères qui ont été étudiés d'ailleurs par un de mes jeunes collègues, Michel Vieillard-Baron, donc les critères de sélection de ses poèmes. Et c'était la grande distraction du palais impérial. L'empereur y participait aussi, mais on ne pouvait pas noter l'empereur. L'empereur ne pouvait que gagner. Alors l'empereur n'était jamais là. En tant qu'empereur, il était présenté comme une suivante. C'est-à-dire que c'était le poème signé par telle suivante qui était le poème impérial. Alors, c'est posé après la question, on sait bien qui était l'empereur quand même, mais là, est-ce qu'on couronnait la suivante ou pas ? Enfin, la dame de cour, disons. L'empereur était tellement sublime qu'il ne pouvait pas être mis sur le même pied d'égalité avec tout le monde, mais en même temps, il participait aux choses de la vie courante. Et là, il fallait le dissimuler. Sinon, l'identité devenait encore plus floue. C'est le reflet de cette atmosphère du Genji. Alors que dans les romans épiques, les romans qu'on appelle les romans militaires, les récits militaires, là, vous savez qui est qui. C'est plus du tout la même chose.
C'est intéressant ce que vient de dire Jean-Noël sur le fait que l'empereur ne peut pas être mis en compétition. Nous avons le contre-pied à peu près absolu. C'est-à-dire que les Égyptiens sont beaucoup plus clairs. Ils ont une taxonomie très basique. On sait qui est qui, il n'y a absolument aucun. Mais quand le roi, quand le pharaon intervient dans la vie, ce qui lui arrive tous les jours, il ne se contente pas d'avoir des idées très pertinentes sur tout. Il est thaumaturge, par exemple.
Ouais.
Il va trouver l'emplacement de gisements d'eau pour faire des citernes en plein désert.
C'est la même chose pour l'empereur japonais, Jean-Noël Robert ?
Thaumaturgie, non. Pas aussi directe, me semble-t-il.
Il est omniscient. C'est-à-dire que de toute façon, quand il décide quelque chose, il sait que ça va être comme ça. C'est très amusant, par exemple, quand Thoutmose III passe pour rejoindre la ville de Megiddo, dans le sud syrien, il doit traverser une passe qui est dangereuse. Bon, on sait très bien, c'est un lieu d'embuscade, etc. Non, il sait que justement là, à ce moment-là, il y aura personne. Donc il envoie des éclaireurs un petit peu dans tous les sens, et à chaque fois, il réussit, parce que de toute façon, il ne peut pas se tromper. Et donc il a une capacité, je dirais pas de prévoir l'avenir, mais de faire que l'avenir soit conforme à ce qu'il doit être. Vous voyez, c'est un petit peu différent, parce qu'il interagit. Il n'est pas que le témoin qui va affirmer ou prétendre. Alors, le mettre en compétition n'est pas pensable, même quand il s'agit de souverains athlètes comme Amenhotep II, que l'on voit, que l'on connaît, pratiquant le tir à l'arc. Alors, il tire à l'arc, c'est extraordinaire, la flèche transforme des cibles de bronze, enfin bon, c'est terrible, il est plus fort que tout le monde, mais il fait la démonstration de sa force. De même, quand il va chasser le lion, en fait, il va tuer ses cousins, en quelque sorte. Hein. Et il est toujours triomphant, et on ne le voit jamais dans une situation difficile. Sauf une fois. On a un exemple. Un exemple. Pharaon est cuit. Il est pris dans la nasse. C'est au moment de la bataille de Kadesh. Ramsès II, vous savez que dans un premier temps, les Hittites sont arrivés à contourner les ailes, ils sont entrés dans le corps d'armée et ils ont défait les Égyptiens. C'est la débandade, tout le monde s'enfuit. Et à ce moment-là, Ramsès II, il voit arriver devant lui les hordes et il est coincé. Que fait-il à ce moment-là? Il s'adresse à Amon. Il lui dit, tout le monde m'a abandonné, tu es ma défense, tu es mon dieu, inspire-moi. Évidemment, il repart de plus belle, il culbute les ennemis et il transforme une défaite en victoire. Donc cet épisode est intéressant parce qu'il montre qu'en fait, la position du souverain est une position qui est de toute façon privilégiée parce qu'il est l'instrument du créateur. Il en est l'image, mais il en est aussi l'instrument. Donc il est infaillible. Donc rien ne peut venir contrecarrer, c'est le principe de la théocratie, il n'y a pas d'élection en Égypte. Ce serait impensable. Puisque de toute façon, depuis le début, les dés sont pipés, si je puis dire. Nous nous contentons de les piper au moment des élections. Mais là, c'est fait bien avant. Donc il n'y a pas de terrain commun entre un roi qui se met quand même en compétition avec le monde et le monde qui ne peut entrer en compétition avec le roi. Je pense que c'est ce jeu entre l'équilibre cosmique qui de toute façon est intangible et la façon dont on fait rentrer l'humain dans cet équilibre. Il n'y a pas de shogun en Égypte, il n'y a pas besoin qu'il y en ait, parce qu'ils sont forcément déviants, ils ne sont plus dans ce système. Pardon pour les shoguns.
Oui, ce sont des gens peu...
Jean-Noël Robert.
Je n'ai pas beaucoup de sympathie, mais et il y a quelque chose aussi, un phénomène assez particulier au Japon, me semble-t-il. Je ne crois pas qu'il ait jamais existé en Chine. C'est ce qu'on appelle les empereurs retirés. Vous aviez, à partir de la fin de l'époque de Heian, où le système quand même commençait à devenir un peu plus déséquilibré, et les empereurs supportaient de moins en moins la contrainte de ces clans qui les entouraient.
C'est quel siècle pour nous pour
alors donc, au XIIe siècle, et puis ensuite ça a continué très longtemps. Donc il était de coutume que l'empereur, à un certain âge, ça pouvait varier pour certaines circonstances, abdiquait, tout simplement, abdiquait et passait le pouvoir impérial à son fils, à l'un de ses fils. Et lui se retirait dans un monastère.
C'est rare ça dans l'histoire quand même.
Comme rien n'est simple, il y en avait tout en se retirant, on continuait de régner, enfin si le fils était suffisamment malléable. Mais vous pouviez avoir comme cela jusqu'à plusieurs générations d'empereurs retirés à une même époque, n'est-ce pas? Vous aviez le père, le fils, un second fils, donc vous pouviez avoir trois, voire quatre empereurs retirés, qui chacun avait ses réseaux. Alors évidemment, ils faisaient beaucoup de poésie, et certains regrettaient d'avoir abdiqué, essayé de reprendre le pouvoir. Ce phénomène des empereurs retirés, et qui sortaient donc de l'ordre politique pour aller dans l'ordre religieux, mais pas Shinto, cette fois bouddhique, donc ils se mettaient en quelque sorte en marge du système politico-religieux japonais, a été quelque chose qui s'est continué pratiquement jusqu'à l'époque de Meiji, où on a été pratiquement chercher l'empereur. L'empereur Meiji n'a pas fomenté le coup d'État, on a été le chercher, n'est-ce pas?
Et c'est une particularité japonaise ou
il me semble,
dans les autres pays d'Asie
Parce qu'en Chine, l'empereur règne et gouverne, enfin, pour autant que je puisse le savoir, en tout cas, la maison impériale est là, n'est-ce pas? Et puis quand on ne veut pas d'empereur, on change d'empereur, il y a un changement de dynastie, etc. Mais ces empereurs, donc, qui sont de plus en plus ectoplasmiques, en quelque sorte, au moins de façade, parce que je vous dis, ça me semble un phénomène assez japonais. Ce système, c'est empereur retiré, mais en japonais, c'est plutôt le gouvernement politique des monastères. Pour vous dire que ce pouvoir impérial est extrêmement symbolique. C'est vrai qu'on estime que dans les années 60-70, les Japonais vous disaient toujours, oui, l'empereur, pour nous, est un symbole. C'était un terme qui avait été repris à la fin de la guerre. Mais ce n'est pas si faux que cela, c'était d'un certain côté. Il avait un symbole, c'est vrai, un symbole religieux, par exemple. C'est lui qui faisait la fête des prémices, n'est-ce pas, des récoltes, des choses comme ça. C'était vraiment les symboles religieux agraires étaient très présents dans la vie impériale, mais le reste n'était beaucoup plus dilué.
Est-ce que la sagesse ne viendrait pas du Japon? Est-ce que savoir se retirer pendant qu'il est encore temps? Il y a dans le grand papyrus magique de Turin, qui est un recueil de recettes magiques, médicales, etc. Mais à chaque fois, souvent, c'est l'occasion d'évoquer un conte. Parce que, par assimilation, vous vivez une situation. Alors, il y a une page, qui est une très belle page, où on voit le dieu Ré, qui se lève pour faire sa promenade quotidienne, c'est-à-dire qu'il va éclairer le monde. Mais le dieu Ré est devenu vieux. C'est le roi des dieux, alors lui, il n'a pas abdiqué.
Ah, parce qu'il vieillisse quand même.
Ah, mais il est vieux, et en plus, il est gâteux. Non seulement il est gâteux, mais il bave un peu. Alors, mais le texte vous dit ça. Alors, il dit voilà, le dieu Ré était devenu vieux, il sortait pour sa promenade quotidienne et il bavait. Il était sur une canne, enfin. Et la déesse Isis, qui est la grande magicienne, cette grande intrigante Isis, était derrière lui et elle ramasse un peu de la bave qui s'était mélangée à la boue du sol. Et avec cette bave et cette boue, elle confectionne un serpent, un aspic, qu'elle met. La vilaine, parce qu'elle voulait évidemment prendre le pouvoir pour son fils, elle le met sur le chemin du dieu. Et le serpent mord le dieu. Et tout d'un coup, le dieu dit « Ah, qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai chaud, j'ai froid, comme dans la chanson. J'ai chaud, j'ai froid. » Et puis, il tombe en catalepsie, il est mourant. Parce que c'est son propre venin, en quelque sorte. Il ne peut pas lutter contre son propre venin. Et donc, il convoque la cour divine. Alors, tout le monde est là, catastrophé autour de lui. Personne ne sait quoi faire. Puis, évidemment, il y a Isis qui est dans son coin, qui dit rien. Elle attend qu'on lui demande son avis. Elle dit « Ah, mais moi, je peux quelque chose pour toi. Moi, je peux te guérir. Mais, pour que je te guérisse, il faut que tu me révèles tes 14 noms. Le nom de tes 14 chaos. » Alors, Dieu se récrit. Il dit « Mais je te donne tout mon pouvoir si je te donne ça. » « Ah, ben, écoute, tu fais comme tu veux, hein. » Alors, n'en pouvant plus, sentant que la mort approche, il dit « Ben oui, je vais te donner. Je vais te donner mes 4 chaos. » Et la fin du papyrus est perdue, mais je ne peux pas te donner.
Vous êtes terrible, là.
Donc, il n'y a pas de retraite pour les pharaons, ni pour les dieux.
Et des mots du pouvoir, on finit sur le pouvoir des mots. Merci, Monsieur Grimal. Merci, Monsieur Jean-Noël Robert, d'être venu sur ce sujet et d'avoir offert aux auditeurs ce beau regard croisé sur les civilisations et les langues anciennes. Je ne sais pas comment dire pour le Japon, parce que ce n'est pas une langue ancienne.
Ah non, comment mais la langue dont on parle, c'est une langue ancienne.
C'est déjà une langue ancienne, quand même. Donc, le terme
c'est incomparable.
Avec juste.
Mais ça a changé au 19e siècle complètement.
Eh bien, merci, messieurs.